Chapitre 1. L'histoire. Il y a un petit sous-titre.
Il faut battre le pouvoir pendant qu'il est chaud.
En posant cette question sur la Sécu, tu viens de mettre le doigt sur l'une des plus belles aventures sociales de l'humanité. Entre la fin des années 1920 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, des utopistes comme on en fait peu ont eu pour ambition de mettre sur pied à l'échelle nationale un système de protection sociale proprement ahurissant. Protéger tout le monde sur un pied d'égalité, que tu sois balayeur, dame pipi, prostituée ou ministre. Ils ont fondé leur système sur un principe archi simple, la cotisation. Tu cotises, c'est-à-dire que tu mets de l'argent de côté, selon tes moyens, et tu consommes selon tes besoins. Difficile de faire plus solidaire, plus redistributif. C'est peut-être la plus belle invention depuis...
La roue ?
Au moins, et voilà pourquoi cette histoire est si belle. D'abord, parce que ces gens étaient membres du CNR, le Conseil National de la Résistance, qui dirigea et coordonna les différents mouvements de la résistance intérieure française. Mais si t'en connais au moins un, le dernier d'entre eux, Stéphane Aurel, célèbre et médiatique auteur du livre « Indignez-vous », mort en février 2013. Ensuite, parce que ces gens avaient pensé, avant même la fin de la guerre, à la manière de reconstruire un système social plus égalitaire. Cependant, il faut pas se leurrer, en histoire c'est comme en biologie, la génération spontanée n'existe pas, rien ne jaillit d'un coup. Et ce n'était pas les premiers à y penser, depuis les mutualistes du début du 19e siècle jusqu'à Jean Jaurès, d'autres avaient déjà réfléchi à la manière de protéger tout le monde.
Les mutualistes ?
Oui, alors ça serait une erreur de tomber dans un récit du type sécurité sociale, conquête ouvrière à proprement parler, ou sécurité sociale égale conquête des résistants. Le CNR n'a pas été chercher ça tout seul. Les origines de notre système de protection sociale sont très anciennes, et on en trouve les prémices déjà avec Henri IV et les mineurs, avec Colbert et les marins. Dans le contrat social, Rousseau pense la chose en disant que la société à laquelle l'individu aliène une part de liberté doit en échange faire bénéficier celui-ci d'une protection sans faille. Et puis, en 1793, les sans-culottes de la Révolution française ont inscrit dans le marbre le droit au travail et à la santé, notamment dans l'article 31 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je dis bien les hommes, parce que les femmes, elles n'étaient pas prévues. Je cite, « Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. » Fin de citation. Là, je te parle que de la France. Mais si tu traverses l'Atlantique, il y a presque, à la même époque, des choses épatantes en Amérique du Sud, avec Simon Bolivar, le Vénézuélien, par exemple. Pour revenir sur le plancher de nos vaches, il faut d'abord aller chercher du côté des courants mutualistes ouvriers, précurseurs dès le début du 19e siècle, notamment à Grenoble, d'ailleurs. Un siècle plus tard, les institutions patronales auront déjà compris l'intérêt de s'approprier le truc afin d'éviter les revendications sauvages et pour garantir une paix sociale au moment où le salariat s'impose comme un mode de travail principal. Mais l'aboutissement, une protection sociale nationale, c'est bien les membres du CNR. Et la brèche était petite car, avec un patronat français farouchement opposé à de tels changements, jamais leurs idéaux ne seraient devenus réalité. Or, durant l'occupation, le patronat dans son ensemble a tellement fricoté avec l'Allemagne nazie qu'il sera pour un temps écarté de la reconstruction. Ajoute à ça un parti communiste à 28%, un syndicat de salariés, la CGT, la Confédération nationale du travail, générale du travail, pardon, et à 5 millions d'adhérents, une classe ouvrière grandit par sa résistance héroïque et hop, c'est passé d'un cheveu.
On dirait un roman.
Mais presque, presque. Pour s'en rendre compte, il faut voir d'où on est parti. Pendant des siècles, les pauvres vivaient d'aumônes, ou bien plus rarement, accédaient en rampant à des maisons de charité. Pendant tout l'Ancien Régime, c'est l'Église catholique qui a le monopole de la charité publique. À la Révolution, la fraternité est le mot d'ordre, et les municipalités doivent prévoir l'aide aux indigents, aux orphelins, aux malades, comme toi. Donc, dans ce qui sera la première intervention étatique laïque, le directoire organise, par la loi de 1796, la charité pour les pauvres au niveau des communes, par la création des bureaux dits de bienfaisance. Ces bureaux fusionneront avec les bureaux d'assistance médicale créés, eux, par la loi de 1893 pour donner naissance, en 1953, aux bureaux d'aide sociale. Eux-mêmes deviendront, en 1986, un truc que tu connais, les CCAS, Centres Communaux d'Action Sociale.
Ben ouais, je connais. J'habite à côté d'un CCAS.
Et là, je te parle des gueux, des mendiants, si tu veux. Mais il y a d'autres catégories, comme les travailleurs pauvres. Au 19e siècle, se créent les sociétés de secours mutuels, les SSM, sorte d'associations de prévoyance sociale gérées bénévolement par des membres élus en Assemblée Générale.
Rien à voir avec les sadomasochistes.
Non, rien à voir. Sans système d'assurance sociale obligatoire, l'État leur laisse le soin d'assurer la sécurité des ouvriers prévoyants. Leur principale prérogative, ce qu'on appelle le risque maladie. Les SSM prennent en charge les frais médicaux et pharmaceutiques et indemnisent partiellement le travailleur en cas d'incapacité de travail. Au milieu du siècle, les SSM commencent aussi à octroyer des pensions de vieillesse, qu'on appelle des retraite, à leurs adhérents âgés. Cependant, la nature et le montant des prestations diffèrent selon le lieu et le travail. La première SSM, celle des Gantiers, à Grenoble, se monte en 1803 et des sociétés dédiées uniquement à la retraite apparaissent en 1847, comme l'Union Fraternelle, une initiative féminine qui tente de pallier l'usure physique des couturières de Gand. Ces formes de secours mutuel se muent parfois en formes embryonnaires d'organisations syndicales.
Ouais, c'est formidable, mais c'est vieux.
Ouais, mais c'est pas parce que c'est vieux que c'est bourri. Imagine, si tu rapportes... Accroche-toi. Si tu te rapportes toute l'existence de l'humanité depuis le Pliocène, 2,8 millions d'années à une seule année, une année, tu vois, tu rapportes 2 millions, 8 à une année, alors la roue a été inventée le 31 décembre à 5h47 du matin. Charlemagne fut couronné empereur à 20h11, le 31 décembre, tu vois. La Société des Gantiers de 1803, elle, se monte vers 23h20. La Sécu, c'est 23h47. Tu sens comme c'est récent? Allez, je t'offre un survol rapide. À l'orée du XXe siècle, en 1910, une loi instituant les retraites ouvrières et paysannes, retraites ouvrières et paysannes, ROP, R-O-P, est instaurée. Crois-moi ou non, le sénateur qui les a le plus défendus s'appelait Bourgeois. ça a dû faire rigoler les prolos. Ça me fait rire, moi, quoi.
Les quoi?
Les prolos. Tu sais, les prolétaires, les travailleurs salariés, si tu préfères. Dans l'Antiquité, le mot prolétaire désigne un citoyen romain de la plus basse classe, qui n'a de richesse que ses enfants. Selon les fondateurs du communisme, Marx et Engels, les prolétaires sont ceux qui ne possèdent ni argent ni moyens de production et doivent donc, pour subvenir à leurs besoins, avoir recours au travail salarié. On les oppose généralement à la classe qui a les thunes, qui possède le capital, les bourgeois. C'est pour ça que je me marre. Une loi pro-ouvrier faite par bourgeois, c'est comme, je sais pas, une loi pro-patron faite par, je sais pas moi, un type qui s'appellerait manouvrier. J'avais un oncle qui s'appelait manouvrier. Bon, je vois que ça ne fait pas rire.
Je n'ai pas d'humour.
Ouais. Bourgeois, je l'aime bien parce qu'il disait des phrases comme, je cite, « Je préfère la politique de la main tendue à celle du poing fermé. » J'aime bien. Et puis parce qu'il défendait l'égalité des races, ce qui n'avait pas de soi à l'époque. Alors bien entendu, il n'était pas le seul dans cette histoire de retraite ROP, mais il y a aussi le socialiste René Viviani, le meilleur ministre du Travail et de la Prévoyance sociale qui a eu en France. Tu sais pourquoi c'est le meilleur?
Pas du tout.
Parce que c'était le premier. Vous savez, bon, c'est d'accord, c'est vrai.
Je n'ai toujours pas d'humour.
Ce ministère a été inventé en 1906, mais les grands patrons l'ont rendu stérile.
Le ministre?
Non, mais non, la loi. D'ailleurs, même les syndicats ouvriers freinaient des cas de fer. C'est surprenant. Hein. La CGT, notamment, arguait du fait que ce système de retraite, d'une part, ne laissait pas beaucoup de pouvoir aux cotisants, ce qui était vrai. Et d'autre part, à partir de 1914, que l'État se servait de cet argent pour soutenir l'effort de guerre. Et c'était vrai aussi. Le système n'était pas très efficace, car en 1918, soit 8 ans après sa mise en œuvre, seulement 20% de ceux qui auraient dû être affiliés cotisaient. Bon, passons, je sens que tu décroches. Puis c'était il y a plus de 100 ans.
Donc, avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de système de retraite digne de ce nom?
Si, créé entre 1928 et 1930 pour être exact. Et ce n'était pas seulement un système de retraite, mais un système d'assurance sociale assez complet, fruit de plus de 10 années de débats parlementaires. Pour avoir une idée du contexte à l'époque, les prises de parole sur le projet de loi étaient du type, je cite, « La France a gagné la guerre extérieure, reste à gagner la guerre intérieure contre les fléaux sociaux. Pour sauver notre race, nous devons entreprendre une croisade énergique et la poursuivre avec méthode, sans hésitation, ni faiblesse. » Fin de citation, discours du député et rapporteur de la loi Édouard Grindat, 10 juillet 1923. Tu as l'ambiance. Hein.
Ça fait.
Les rapporteurs commençaient généralement leur discours en rappelant le triptyque justice, paix sociale, vitalité de la race.
Tu m'étonnes, bonjour l'ambiance.
N'est-ce pas, hein? Il va de soi que les immigrés maghrébins qu'on faisait travailler dans le métro à Paris, par exemple, ou ceux des colonies françaises, n'étaient pas concernés par ces mesures. Puisqu'il faut dire ce qui est, l'essentiel du job était, qui était assez admirable au demeurant, fut accompli par le ministre du Travail du gouvernement Tardieu, un certain Pierre Laval.
Laval, le copain du maréchal?
Ouais, l'adjoint du maréchal. Sous l'occupation, le président de la milice française, celui qui a signé les lois anti-juives, tout ça. Un triste sire, l'une des figures les plus honnies de l'histoire contemporaine. Mais, il avait fait la loi de 1930, qui retouche un peu celle de 1928, et ce n'est pas parce qu'il est devenu le rouage d'une machine monstrueuse qu'il faut lui retirer ça. Bon, revenons à ces années 20. Les débats faisaient rage, surtout dans le nord-est de la France, car le rattachement de l'Alsace et la Moselle à la France en 1918 avait relancé le débat de l'assurance sociale. Alsaciens et Mosellans avaient vécu depuis leurs annexions à l'Allemagne en 1871, les fameuses années Bismarck, mais j'y reviendrai, on y reviendra, et avaient su apprécier les protections de santé et de retraite entre autres. Difficile de revenir en France et de perdre cet acquis. De très nombreux projets de loi visant à établir partout en France une protection sociale seront donc déposés et rejetés par les agriculteurs, par les médecins, par le patronat. La loi de 1928 sera même retouchée en 1930 pour satisfaire, en partie, à la demande de ces trois corporations.
Et comment cela?
Les médecins ne voulaient pas de la loi sur l'assurance maladie?
Eh ben non, parce qu'ils voulaient que soit reconnue la charte de la médecine libérale. Libre choix du médecin, respect du secret médical, entente directe sur les honoraires, liberté thérapeutique et contrôle des malades par les caisses et les médecins par leurs syndicats.
C'est quoi ce que tu appelles les caisses?
Ah, les caisses, on détaillera plus tard, mais disons que c'est un organisme chargé par l'État de collecter l'argent des adhérents et d'en assurer la redistribution. Ce sont majoritairement des structures de droit privé qui exercent une mission de service public.
D'accord. Donc les médecins protégeaient leurs privilèges, en somme, et les agriculteurs?
Bah, les agriculteurs, ils sont pas connus pour avoir maints privilèges. Ils vivaient à l'époque sur des petites exploitations à moitié autarciques et très peu mécanisées. Ils avaient dans l'entre-deux-guerres des représentants pour le moins haut en couleur, on va dire, et sur l'aile la plus conservatrice, un mouvement politique du nom de Front Paysan, créé en 1934. Alors pour que tu sentes l'ambiance, il y avait dans ce front le Parti Agraire et Paysan Français, déclaré apolitique, puisque selon son leader, le blé, le lait, le vin, le bétail, la charrue n'ont pas d'opinion politique. Mais bon, ça n'empêchait pas d'être farouchement anticommuniste. Il lui paraissait indécent de s'opposer à la propriété privée. Il y avait l'Union Nationale des Syndicats Agricoles, avec une majorité d'exploitants et d'associations sectorielles, type blé, vin, betterave, et les comités de défense paysanne, ah, j'ai bossé le sujet, connu sous le nom des chemises vertes d'Henri Dorgère, mouvement simili-fasciste paysan.
Okay.
Étonnant. Hein. Bref, tu vois, le contexte n'était vraiment pas au gauchisme, et ça faisait déjà des années que les représentants des agriculteurs soutenaient l'idée d'une assurance sociale par branche professionnelle, en défendant la stratégie de payer peu de cotisations, notamment pour la retraite. Dans la mentalité paysanne d'alors, la terre était considérée comme le meilleur des coffres-forts. En poussant les membres à peu cotiser, les syndicats des agriculteurs faisaient le pari qu'avec l'argent restant, chaque agriculteur pourrait se constituer un capital, et s'endetter par la même occasion, par la construction de bâtiments, l'achat de foncier, de cheptel. L'idée de cotiser entre soi et non collectivement, et cotiser peu, quitte à toucher peu de retraite, continuera d'être instillée chez les agriculteurs par la structure d'après-guerre, la fameuse FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. Pour faire simple, les agriculteurs entre eux, les cheminots entre eux, etc.
Ça me fait penser à ce que j'ai entendu sur la loi travail portée par Myriam El Khomri en 2016. J'avais pas tout compris.
Bah, c'est un peu effectivement du même acabit pour la partie de la loi qui a cristallisé toutes les tensions, celle qui consistait à inverser la hiérarchie des normes.
La hiérarchie des normes?
Eh bien, alors, l'organisation des règles juridiques fonctionne de manière pyramidale en France. C'est-à-dire que ton contrat de travail doit respecter les accords d'entreprise, entre syndicats et patrons ou au sein de ton entreprise, qui respectent eux-mêmes les accords de branche entre les entreprises d'un même secteur d'activité.
Je me demande bien ce que peut représenter un accord de branche chez les bûcherons.
Très bon, très bon. Contrats, accords de branche et d'entreprise sont ce qu'on appelle des normes conventionnelles. Au-dessus d'elles, il y a les normes étatiques. Ainsi, les accords de branche doivent tout de même respecter la loi, qui elle-même doit respecter les traités internationaux signés par les pays, qui eux-mêmes respectent la Constitution française avant d'être intégrés par le Conseil constitutionnel. Alors quand je dis « respecter », il faut entendre « ne peut pas être moins favorable pour toi ».
C'est bien aimable.
Mais enfin, c'est pas tombé du ciel. Hein. Cet acquis a été le fruit de longues luttes acharnées. Une des dernières en date, par exemple, la loi dite des 35 heures, ou loi Aubry 1, Martine Aubry, elle fixe depuis l'an 2000, la durée légale du travail hebdomadaire. Cette loi respecte bien les traités européens qui, eux, fixent une durée maximale à 48 heures, et ton contrat de travail, lui, ne peut pas dépasser les 35 heures, car la loi prévaut sur ton contrat. En outre, ton contrat doit respecter les accords d'entreprise entre syndicats et patrons au sein de ton entreprise, qui respectent eux-mêmes les accords de branche. La loi El Khomri, en 2016, inverse pourtant la hiérarchie des normes. Elle renforce les accords d'entreprise par rapport aux accords de branche. Un peu comme si, dans un championnat de boxe anglaise, les clubs pouvaient surseoir aux règles fédérales et obliger des boxeurs à participer à des combats autorisant les pieds, les morsures, les poignards et les fourchettes dans les yeux. Les accords passés entre les syndicats et ton employeur peuvent prévaloir sur la loi et ainsi, par exemple, permettre de fixer la durée légale hebdomadaire pour toi à 39 ou 46 heures. Au lieu d'avoir une règle commune, chaque patron peut morceler maintenant. En gros, diviser pour mieux régner, comme disait Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand.
Ah, c'est pas Machiavel ?
Ah non, c'est 1800 ans avant. Alors regarde bien maintenant, le vol des vautours. C'est pas très gentil pour les vautours, mais on imagine bien le vol des vautours. La loi prévoit que, dans certains cas, les normes conventionnelles peuvent déroger, ça veut dire désobéir en langue bizarre de juriste. Elles peuvent déroger aux normes étatiques. À côté de ces possibilités de dérogation, il existe une autre règle. Si aucun accord collectif n'existe, alors la loi s'appliquera. Dans ce cas, on dit que la norme étatique est supplétive. Toutes les lois sur le travail depuis les années 1980 ont élargi les possibilités de dérogation ou de subjectivité, comme autant de raccourcis dans un jeu de Pac-Man. Tu sors d'un côté du tableau, et puis tu rejaillis de l'autre. Mais bon, revenons aux années 30. Le patronat, sans surprise, condamnait déjà le poids des charges sociales sur la production.
Comme quoi, il y a des choses qui ne changent pas.
Finalement, la loi de 1930 représentait quand même une avancée parce que le système couvrait les risques principaux.
Les risques ?
Oui, maladie, et vieillesse, mais aussi invalidité prématurée, décès, ainsi qu'une participation aux charges de famille et de maternité. En l'occurrence, c'est en s'appuyant sur ce texte que se sont généralisées les caisses d'allocation familiale pour les salariés du commerce et de l'industrie en 1932, les fameuses CAF, que tu connais sûrement.
C'est de là que ça vient ? Et ça fonctionnait comme ça à l'époque ?
Ben, le principe, c'était suivant. Si tu étais salarié et que tu gagnais moins de 15 000 francs par an, 18 000 si tu habitais dans une grande agglomération, ton employeur était tenu de te déclarer et une cotisation était versée par ton employeur pour une partie et prélevée sur ton salaire pour une autre. Okay. Un franc de 1930, si tu veux, ça vaut à peu près, je dirais, la moitié d'un euro de maintenant, quoi. Donc, il fallait gagner moins de 713 euros par mois ou 855 en ville, si tu veux. Donc, n'être quand même pas très, très riche. L'État mettait aussi la main à la poche dans le dispositif de 1930. De fait, on avait déjà les acteurs principaux de notre sécu d'aujourd'hui. État, employeur, salarié et une cotisation qui dépend du niveau de revenu. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais parmi les grandes différences, il y a le fait que la loi de 1930 laissait une grande liberté de choix quant à sa caisse de rattachement. Et leur nombre était pléthorique.
C'est plutôt bien de laisser une grande liberté, non ?
Alors, la liberté de choix était au patron. Bon, sur le principe, c'est dur de te contredire l'histoire de la liberté, mais sauf que c'est l'éternel débat sur l'équilibre entre liberté et égalité. En l'occurrence, à l'époque, la décision de laisser un maximum de liberté dans le choix des caisses est surtout mue par un rejet des monopoles et de l'intervention de l'État. C'est l'idéologie libérale qui est à l'œuvre, quoi.
Attends un peu. Il faut que tu sois précis, là. Parce que le mot libéral, moi, je l'entends à tous les coins de rue. Et je ne suis pas sûr de lui associer le même sens que toi.
Non, non, t'as raison. Satan est planqué dans les mots pas clairs. Et de toute façon, on aura besoin de ce mot tout le long de la discussion. Donc, le mot libéral s'utilise à toutes les sauces puisqu'il peut tout aussi bien caractériser des rapports entre les individus, une position idéologique, un programme ou un parti politique, une théorie économique. Et pour couronner le tout, la représentation du libéralisme change selon qu'on se trouve d'un côté de l'Atlantique ou de l'autre. Bref, on peut trouver au moins deux sens au mot libéral selon si on regarde notre rapport aux valeurs morales, culturelles ou à l'organisation de notre vie publique, autrement dit le libéralisme moral et politique, et dans ce cas-là, libéral, c'est une connotation généralement positive, associée à la tolérance des opinions et modes de vie des autres. Cela renvoie à une forme de gestion démocratique dans laquelle la liberté de parole et de conscience est primordiale, en opposition au régime autoritaire, si tu veux. Et puis ça peut aussi se référer à notre rapport à l'économie. Le libéralisme se fonde alors sur le droit de propriété, et prône la liberté d'entreprendre, d'embaucher, d'échanger à l'échelle mondiale, sans contrôle de qui que ce soit, surtout pas d'un État. Le libéralisme économique est donc associé à l'économie de marché, au libre-échange et à la dérégulation. Le discours classique du libéral économique est du type « c'est dégueu, je cravache, moi qui me suis fait tout seul, et voilà que je paie pour des assistés qui veulent pas assumer leur choix de vie », sous-entendu les losers qui ne doivent qu'à eux-mêmes leurs échecs.
J'ai compris. Explique-moi alors ce que c'est qu'une profession libérale.
Ah oui. Une profession libérale désigne une profession indépendante de l'État, exercée par quelqu'un, à titre personnel, sous sa propre responsabilité.
Okay.
Que fait cette personne ? Elle propose des services intellectuels et conceptuels, du soin, de la défense juridique, des actes notariés, etc. Elle touche des honoraires, et non un salaire.
Et il y a une différence ?
Bah ouais, honoraire, c'est plus classe. Ça vient de honorarius, donné à titre d'honneur.
Pour de vrai ?
Ah ouais, dans son dictionnaire philosophique, Voltaire écrivait... Pour honorer une profession au-dessus des arts mécaniques, on donne à un homme de cette profession un honoraire au lieu de salaire et de gage qui offenserait son amour propre. Bon, en France, il y a une différence. Tu touches des honoraires si tu fais ton travail en toute indépendance et un salaire s'il y a une subordination entre l'employeur et l'employé. Médecins, par exemple, ou avocats sont des professions libérales, mais pas tout le temps. Si un toubib est salarié d'un centre de santé, ben, il est salarié, pas libéral. Il y a encore une troisième catégorie, ni salarié ni libéral, les fonctionnaires.
Ok.
Eux ne reçoivent ni salaire,
ah bon,
ni honoraire, mais un traitement. Je rentre pas dans le détail, mais à l'origine de tout ça, ça remonte à la Révolution française de 1789, qui a nationalisé la rémunération des agents de l'administration pour éviter les pots de vin.
Dis-moi, Richard, j'ai le droit à combien de calques ?
De quoi ?
Q-A-L-C. De calques ?
Q-A-L-C.
De questions à la con.
Ah, celle qu'on n'ose pas poser, bah autant que tu veux, pas de problème.
Vraiment, je me lance. Si j'ai bien tout pigé, je peux être libéral, libéral et antilibéral.
Bah ouais, aussi étrange que ça puisse paraître, bah oui. Moi, quand j'emploie le terme libéral, ou un de ses avatars, comme néolibéral, c'est au libéralisme économique que je fais référence. Ce qui est sous-entendu avec le libéralisme économique actuel, c'est que chacun est également capable, responsable et doit assumer ses succès et ses échecs. C'est hyper individualiste comme conception. Et surtout, c'est faux. La sociologie montre bien qu'en moyenne, si tu réussis, c'est parce que tu as bénéficié d'une éducation, d'infrastructures et d'un environnement propice à ta réussite. Et tout ça, tu le dois en partie aux autres. Et puis, les libéraux économiques sont plus prompts à assumer les réussites que les échecs. Regarde l'histoire de la crise des subprimes en 2007, celle des banques en 2008, qui avait fait n'importe quoi. On a dû collectivement les renflouer. Avec l'argent commun, quoi. En appliquant la logique libérale jusqu'au bout, il aurait fallu les laisser crever la gueule ouverte.
Admettons. Et capitaliste, alors?
Bon.
T'avais dit que j'avais le droit. Hein.
Mais bien sûr. Capitaliste, c'est logique. Il faut définir les mots. Capitaliste, c'est un concept à la fois économique, sociologique et politique qui caractérise, en gros, un système reposant comme un guéridon sur trois pieds. La propriété privée des moyens de production, alors qu'il pourrait appartenir à l'État ou aux gens qui y bossent, par exemple, comme dans les coopératives. L'accumulation sans plafond du capital, l'argent, tu peux accumuler tant que tu veux, et la libre concurrence. Si t'as bien suivi, le libéralisme économique est donc un pied du système capitaliste.
Donc, comme les libéraux économiques prônent la liberté d'entreprendre, c'est logique qu'ils ou qu'elles, et avec eux les capitalistes, rejettent l'intervention de l'État.
Bah, tout à fait. Le linguiste et politologue états-unien assez célèbre Noam Chomsky a popularisé un slogan du mouvement des travailleurs brésiliens sans terre. Je cite « Étendre la surface de la cage avant de la casser ». L'État est une cage qui nous oppresse, certes, mais en dehors de la cage, il y a des fauves qui sont les grandes compagnies privées, et d'une certaine façon, la cage nous protège des fauves. Il faut donc étendre la surface de la cage.
Mais ne pas la casser tout de suite, au risque de se faire croquer.
C'est ça. Bon, retournons une dernière fois en 1930. Juste avant l'apparition de la loi, les chroniqueurs de droite s'affolent. On pourra lire par exemple dans le journal Le Courrier de l'Allié « La marée des paperasses montera un peu plus. On créera une armée de fonctionnaires pour vous ahurir, vous ahurir des explications fulgineuses. » Le journaliste Pierre Vigneault écrit ensuite par exemple que les assurances sociales, je cite, « produisent déjà leurs fruits amers. Loi de mutualité, de solidarité, la loi de 1930 menace d'engendrer la discorde entre ouvriers et patrons et de devenir un danger de guerre entre les mains de ceux qui poussent à la lutte des classes. Leur vice vient du caractère étatiste. Le Parlement a systématiquement méconnu les bienfaits de la liberté. L'obligation ne pouvait que provoquer la révolte. Ils ont bien travaillé pour la révolution. » Fin de citation. Cette loi était aussi imprégnée de libéralisme pur jus. Son mode de retraite, dit par capitalisation, s'inspire du mode des assurances. Chaque travailleur met des sous dans une boîte, ça crée un stock qui lui est reversé quand il est à la retraite. On se la joue perso, rien de collectif.
Mais que devenait le retraité en 1931, par exemple? Il n'avait pas eu le temps de cotiser?
Ah oui, si cette loi entre en vigueur pour les vieux de 1930 et qu'il fallait 30 ans de cotise pour toucher une retraite, bah effectivement, les mieux lotis devraient attendre 1960. Et les autres, ils mangeraient des topinambours. Alors bien sûr, même si c'était bancal, ce système posait quand même les bases de mesures sociales pour les plus démunis et il était l'objet de nombreuses critiques. Ainsi, des meneurs politiques libéraux réclamaient une réforme des assurances sociales avec suppression ou au moins diminution considérable des dépenses à la charge de l'État et allègement des cotisations des employeurs, suggérant d'autre part des mesures déflationnistes sur les revenus salariés et les pensions.
T'emballe pas, s'il te plaît. Fais un effort que je comprenne.
Je concède que c'est pas simple. En gros, l'aile conservatrice de la sphère politique réclamait que les patrons et l'État dépensent moins pour le système des retraites. Mais si moins d'argent entre dans les caisses, le seul moyen d'équilibrer les comptes est de moins dépenser. Et pour cela, on diminue le revenu des retraités. Okay. Bon, tu vois, 80 ans plus tard, les idées sont toujours les mêmes. Et puis est venue la guerre avec une réforme majeure pour les retraites et la création, le 14 mars 41, d'un dispositif complémentaire, l'AVTS. AVTS, allocation aux vieux travailleurs salariés, qui attribuait une allocation aux personnes âgées de plus de 65 ans. C'est devenu ensuite le minimum vieillesse, puis aujourd'hui l'ASPA, l'allocation de salariés, de solidarité aux personnes âgées.
Attends, mars 41? Mais on est sous l'occupation là.
C'est vrai. C'est Vichy qui l'a fait, et c'est un des rares trucs pas trop moches de ce régime. Il faut le concéder. Tu remarqueras... Vas-y, tu veux les dire?
Non, je t'en prie.
Tu remarqueras aussi que cette mesure répond à un impératif assez éloigné de celui de la protection sociale. En 1940, la guerre fait rage, les populations sont désemparées et le chômage est colossal.
Le chômage? Mais ils sont pas tous au front?
Non. N'oublie pas que la France est coupée en deux à cette époque.
Okay.
Les chômeurs sont à la fois des Français qui ne peuvent rentrer dans leur région annexée par le Troisième Reich, des soldats démobilisés qui, de retour à la maison, trouvent les usines fermées en raison du manque de matières premières, ou encore les quelques 300 000 femmes devenues chefs de famille du fait de la mort ou de la captivité de leur mari. La lutte contre le chômage est une priorité. Un commissariat dédié sera donc créé en octobre 40 sous l'impulsion du ministre couteau suisse de l'époque.
Pourquoi couteau suisse ?
Parce que le gars, il est en charge non seulement du travail, mais aussi de la production industrielle, du commerce intérieur, okay, de l'énergie, de l'armement, okay, okay, et des assurances, okay, sociales. Bon, ça a son importance parce qu'il fait d'une pierre deux coups. En instaurant une retraite immédiate, et donc en permettant aux gens de survivre, il enjoint les plus âgés à partir et à laisser la place aux plus jeunes. Donc il facilite un peu l'accès au marché du travail. Et puis les vieux travailleurs peuvent le remercier, vu la misère dans laquelle ils sont. Plusieurs dévaluations de la monnaie dans les années 30 ont failli dissoudre complètement les retraites ouvrières et paysannes de 1910.
Hein ?
Non mais, bon, je vois à tes yeux ronds de Merlan Free que c'est pas clair. Je reprends. À l'époque, les retraites sont dites par capitalisation.
Okay.
Quand tu cotises pour ta retraite, tu confies de l'argent, en l'occurrence des anciens francs, à un organisme en attendant que tu demandes à en bénéficier. Dans ce système, cet organisme ne laisse pas l'argent dormir. Il le place sur des marchés financiers ou dans l'immobilier, par exemple. Mais si une crise économique ou une guerre passe par là, alors les marchés s'effondrent, le prix d'immobilier dégringole et la monnaie vacille. Et toi, tu peux coller ton oreille sur ta cagnotte, tu entends la mer, il n'y a plus que du vent dedans. Ce système est si risqué qu'on sentait bien à l'époque qu'il fallait en changer. S'y est donc collé le ministre couteau suisse, multitâche sous Vichy, un certain Belin.
Belin, ça me dit quelque chose. Les petits gâteaux apéro ?
T'es con. Pour mémoire, les héritiers des biscuiteries Belin, elles, ouais, elles ont été plutôt dignes pendant la période. On dit qu'ayant refusé de servir l'occupant, l'usine se consacra à la fabrication de biscuits caséinés à base d'albumine de lait pour les écoles, ainsi que de pain de guerre destiné aux prisonniers. Non. Belin, ici, c'est René, ancien syndicaliste CGT, okay, qui a rejoint Pétain en 1940. Vois-tu, l'histoire est complexe, rares sont les méchants, ultra méchants, comme nomme James Bond, et les gentils, super gentils. Tu vois, il y a un côté de Dr. Jekyll et Mr. Hyde chez Belin. Il va d'un côté voter les lois contre les juifs et dissoudre les syndicats, et de l'autre bosser sur les retraites par répartition.
Par répartition ?
Ouais, c'est l'autre des grands modèles de retraite. Il est basé sur la solidarité entre les générations, comme une longue chaîne humaine transgénérationnelle dans laquelle tout le monde se tient la main. Ceux qui travaillent paient des cotisations, qui sont directement versées à ceux qui sont en retraite. En cotisant, les travailleurs acquièrent des droits pour bénéficier des cotisations de ceux qui travailleront quand eux-mêmes seront en retraite.
Un peu comme quand les enfants gardaient sous leur toit leurs parents âgés, en espérant que leurs enfants les garderaient à leur tour, mais en plus large.
Et en outre, ça évite qu'un triste sire aille tout placer à la roulette et perde tout. Sur le papier en tout cas, c'est mieux. Il y a également des inconvénients, mais on y reviendra plus tard. D'un point de vue purement économique, l'équilibre financier de ce modèle dépend d'un truc simple. Le rapport entre le nombre de cotisants et celui des retraités, évidemment. S'il n'y a pas assez de monde qui travaille par rapport au nombre de personnes qui attendent leur retraite, alors ça se casse la figure.
Et ça arrive ?
Bah ça peut. Regarde, si tu fauches la moitié d'une génération, comme durant les deux grandes guerres, ou s'il y a une crise économique et un fort taux de chômage, alors le modèle, par répartition, il s'effondre.
Belin. Ça me dit quelque chose quand même.
Peut-être as-tu déjà entendu son nom associé au 1er mai, à cause d'une loi, la loi Belin, qui porte son nom, du 24 avril 1941, qui a été instauré donc par Pétain.
C'est lui ? C'est lui le 1er mai férié ?
Non. Il faut se méfier des histoires qu'on raconte. C'était ni l'invention de Belin, ni celle de Pétain.
Okay.
Le May Day, comme on dit aux États-Unis, cumule deux histoires, en fait. Celle des luttes syndicales états-uniennes, réclamant au patron la journée de 8 heures, qui fut relancée le 1er mai 1884... Le 1er mai étant le premier jour de l'année comptable aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils avaient pris ce jour-là. Et celle du 1er mai 1886, deux ans plus tard, quand trois grévistes de la société McCormick à Chicago furent tués par balle. En 1890, Jules Gued et son parti décident de faire de chaque 1er mai une journée de manifestation avec pour objectif la réduction de la journée de travail à 8 heures. Et depuis lors, c'est systématisé la fête des travailleurs. Mais pour Pétain, travailleurs, ça fait trop communiste. Alors, petit tour de passe-passe, la fête devient la fête du travail et de la concorde sociale.
On doit la fête du travail au gouvernement de Vichy ?
Ben, ma foi, en quelque sorte, oui. Si tu veux, la fête du travail, c'est Pétain, et la fête des travailleurs, c'est anarcho-socialiste. Dans le code du travail, on pourrait lui remettre son nom d'origine, je trouve, mais bon, laisse-moi poursuivre, sinon on n'y arrivera jamais. Quoi qu'il m'en coûte de le dire, on doit le système de répartition au régime de Vichy. Belin réunit autour de lui de brillants personnages, parmi lesquels Larocque et Parodi, qui pousse la future loi de 1941. Mais ils se font dégager avant. Larocque, du fait de la sortie de loi d'octobre 40, écartant les juifs de la fonction publique, et Parodi parce qu'il est soupçonné de Mal pensé, véridique. Alors parodie le mal pensant, rejoint le réseau de résistance combat, rallie Londres en 43. Mais la loi a été votée et on a là l'ancêtre de ce qui deviendra la Sécu. Certes, la VTS, c'est pas le Pérou pour nos anciens, l'allocation des vieux, vieux travailleurs. C'est 3600 francs de l'époque par an, ça fait quand même pas bézef, comme on dit, mais ça fait l'équivalent de 1190 francs en 41, et si tu veux, 821 francs seulement en 1943, car le franc a perdu de sa valeur. En gros, c'est presque une aumône, quoi.
Okay.
Mais c'est l'embryon du système. Et les gens ne s'y sont pas trompés. Dès novembre 41, c'est l'explosion. Plus d'un million et demi de dossiers ont été déposés.
Laisse-moi réfléchir. Les gens qui posent ces dossiers, ils n'avaient pas cotisé pourtant.
Bah non, remarque judicieuse. Près des deux tiers n'avaient effectivement jamais cotisé. Autant dire que ça a été le coup de chaud devant les caisses vides. Heureusement qu'il y avait un peu de maille dans les anciennes caisses du régime de l'assurance vieillesse, sinon c'était la cata.
Et ensuite ?
Bah en 43, se crée le Conseil National de la Résistance, le fameux CNR, les jours heureux, tout ça, qui s'oppose de toutes ses forces au régime de Vichy. Le CNR, c'est les prémices de quatre structures qu'on recouvrira sous le nom de gouvernement provisoire de la République française.
Okay.
Mais c'est surtout un programme légendaire. Le 15 mars 44, il produit une dizaine de pages intitulées « Les jours heureux par le CNR », qui comporte un plan d'action immédiate au sein de la résistance intérieure française à mener dans la perspective de la libération. Ils anticipent en fait la fin de la guerre, mais aussi et surtout les mesures à appliquer dès la libération du territoire. Épuration des collaborationnistes, nationalisation, rétablissement du suffrage universel. Bon, en oubliant au passage les femmes.
Tu me charries, là.
Non, je te jure, il faudra attendre une décision du Comité français de libération nationale, officialisée par une ordonnance en 44, en avril 44, pour que les femmes soient incluses dans le suffrage. Et un dernier truc que le monde nous envie, la sécurité sociale. Plus exactement, un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens les moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail avec gestion appartenant aux représentants des intéressés de l'État. Bon, un programme de dingue. Pourtant, ce texte, les jours heureux a disparu des mémoires durablement, quasiment jusque dans les années 90. Pourquoi ? Bon, bah, il y a plusieurs paramètres, mais jusqu'en 47, ça va, tout le monde se reconnaît dedans, mais ensuite, c'est la guerre froide. Et si j'ai bien compris le travail de l'historienne Claire Andrieux, l'union entre gaullistes et communistes née de la résistance explose, le pacte, la suite, la guerre froide. Mmh. Et tant que le clivage entre De Gaulle et ses héritiers d'un côté et les communistes de l'autre durera, personne ne revendiquera cet héritage encombrant d'un temps où l'opposition au nazisme avait soudé les gens. Il faut attendre la chute du mur de Berlin, en gros, en 89-90, tout ça, et l'effondrement communiste. Et puis voir les dégâts des politiques néolibérales pour que les gens se réapproprient cette référence. C'est le quotidien communiste L'Humanité qui a redécouvert le texte et en a fait un incontournable de la défense d'un service public fort et d'un État interventionniste.
T'es sûr que t'es pas en train de regretter un âge d'or qui a jamais existé, là ? C'est la première étape avant de devenir un vieux con, tu sais ?
Bon, je dois admettre que je développe peut-être un peu de romantisme. Les jours heureux étaient déjà un texte de compromis entre les composantes du CNR. Il a fallu trouver les points communs et laisser de côté les graves questions non consensuelles, comme celle de la décolonisation, par exemple. Il y avait même un côté un peu réac, un peu conservateur au texte. C'était pas la révolution qui était prônée, si tu veux. Même changer la constitution de la Troisième République, qui datait pourtant d'un paquet de temps, hein, de 1875, n'était même pas envisagé. Et ce n'était pas pour les propositions pourtant de nouvelles constitutions qui manquaient. Et puis la brèche fut de courte durée, car comme tu le sais probablement, tout s'est rapidement gâté.
Oui.
Dès 46, reparaît un journal pro-Vichy avec plein de plumes d'anciens ministres péténistes. Ça s'appelle le Bulletin de France Document. Et c'est la charge contre les nationalisations, contre le CNR, contre les professionnels du résistentialisme. En 1948, le gouvernement de Jules Moch, en prononce Moch, ça s'écrit Moche, envoie ses chars matés à l'arme lourde les mineurs grévistes du Nord et de l'Est. Ce qui lui vaudra de se faire appeler par la suite Monsieur Moche. C'est bien fait pour lui. Bon. Et puis, surtout, malgré les réformes, le virage logique du profit est pris très vite. Et comme l'écrit l'historien états-unien Richard Quizel, la planification française prit un caractère néolibéral plutôt que socialisant ou syndicaliste. Jusqu'au président de la République lui-même, Vincent Auriol, qui se désole. La classe ouvrière qui avait été à la pointe de la résistance pensait obtenir des réformes profondes de structure et elle a vu revenir le même système économique avec les mêmes égoïsmes sociaux et rien n'a changé dans les rapports du capital et du travail. Et tu vois, ça durera jusqu'aux émeutes de 1968. Donc s'il y a eu un âge d'or, l'âge a été bref et puis plutôt plaqué or. Tu vois. Mais bon, revenons à nos moutons. Tu te rappelles d'Alexandre Parodi ? l'ancien collègue de Belin, révoqué par Vichy. Révolté par la tournure prise par le régime de Pétain, il était entré en résistance, puis il avait contacté quelques opposants comme lui, dont Jean Moulin, et créé le comité des experts, devenu ensuite le comité général d'études. Et c'est ce comité qui servit à étudier et préparer les réformes judiciaires à mettre en place après la libération.
Prévoyant le garçon.
Ouais, il anticipait, il planchait déjà dès 1943 et en pleine clandestinité sur la question de l'épuration de la presse et de la radio des journalistes et intellectuels collaborateurs. Il trima aussi au comité financier de la résistance. Tu vois le genre de gars ?
Ouais. Un genre de combattant organisateur.
C'est ça, à la libération, De Gaulle lui confia la mise en œuvre du programme du CNR qui prévoyait une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours. Il fut aidé en cela d'une fine équipe de mousquetaires. Alors Pierre Larocque, tu te souviens le juif du Vaucluse, là, lui aussi collègue de Belin, qui avait rejoint Londres en 1943. Lui, il est nommé directeur des assurances sociales et de la mutualité. Marcel Paul, enfant abandonné sur un banc de 1900. Non, sur un banc de 1900, ça veut rien dire, sur un banc en 1900, qui deviendra ministre de la production industrielle, et s'illustrera entre autres en nationalisant la production des gaz et d'électricité, et en formalisant les secours d'urgence. Et puis surtout, la superstar des pauvres, j'ai vraiment une tendresse pour lui folle, Ambroise Croizat, un vrai héros moderne, fils d'un manœuvre syndicaliste rouge, lui-même ouvrier. Il succéda à Parodi en tant que ministre du Travail et de la Sécurité sociale de novembre 45 à mai 1947. Le seul ministre du Travail ayant été ouvrier. Il dirigea alors la mise en place du système de protection sociale pendant un an et demi, assurance maladie, système des retraites, allocation familiale. Il paraît que quand il est mort en 1951, d'avoir fumé comme un sapeur toute sa vie, un cortège d'un million de personnes a suivi son cercueil.
Un million ? Pas possible ?
C'est l'historien Michel Etiévan qui donne le chiffre, et franchement, je crois pas qu'il exagère tant que ça. Le type a marqué un peuple entier il y a moins de 70 ans, et tout le monde l'a oublié depuis.
Dans mon bled, il y a une rue à son nom. Je ne savais même pas qui c'était.
Soyons lucides. Quand en octobre 45 le programme est adopté, il a déjà subi un sacré paquet de tentatives de sabotage par les classes dominantes et les grands patrons.
Pourquoi ?
Déjà, sans faire d'amalgame, tous les patrons de l'époque sont, à quelques exceptions, près, de droite, et aussi presque toujours chrétiens. Ce qui a son importance. Même si l'ouvrier est perçu comme un enfant irresponsable, qu'il faut diriger contre lui-même, il faut faire montre envers lui de charité, l'une des trois vertus théologales du christianisme. Prendre soin de la santé de ses travailleurs, c'est au fond comme gérer sa marchandise ou ses outils, et de toute façon, faire l'aumône, c'est une voie d'accès au paradis.
Tu exagères un peu, non ?
Pas du tout. Prends par exemple Paul Reynaud, ce génie qui, président le conseil en 1939, déclarait, je cite, « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts ». Fin de citation, celui qu'on appelait « l'ennemi public numéro un de la CDU ». Le 23 juillet 1949, à l'Assemblée nationale, il déplore l'alcoolisme de ses compatriotes travailleurs et les estime responsables de la perte de 640 000 années de travail par an par rapport aux Britanniques. Il est de son temps. En 1930, déjà, pour les retraites ouvrières et paysannes dont je t'ai parlé, il était décidé de prélever directement sur le salaire de l'ouvrier sa prévoyance de retraite en instituant le précompte ou ce qu'on appelle maintenant la retenue à la source. On partait du principe qu'il fallait... Accroche-toi, je te jure, c'est bon. Il fallait protéger l'ouvrier contre lui-même. Okay. Et que si on laissait gérer sa retraite, il irait la boire au comptoir comme un sous-l'eau. Mmh. Tu vois, ce paternalisme avait un plafond, 18 000 francs par an. Au-delà, on estimait que tu étais en mesure de te gérer. Et en deçà, tu étais un pouilleux, donc forcément irresponsable.
On retrouve ça un peu parfois, à propos des nomades, des SDF, des gitans, des jeunes aussi. Donc si aujourd'hui, tout le monde voit ses cotisations prélevées avant salaire, c'est un reste de paternalisme. L'État part du principe que si on ne force pas les gens, ils n'épargneront pas pour leur retraite et iront tout jouer au PMU.
Oui, c'est à peu près ça. Et un niveau minimal d'épargne en retraite est rendu obligatoire dans la plupart des pays. Aujourd'hui, on ne dit plus que c'est pour éviter que les travailleurs picolent, mais pour, je cite, « éviter les comportements non optimaux des agents à rationalité limitée ». Fin de citation, selon l'expression de la DGTPE, la Direction Générale du Trésor et de la Politique Économique. Et pour appâter les travailleurs, on encourage fiscalement une épargne volontaire pour la retraite, c'est-à-dire que l'argent qu'ils mettent de côté, on fait comme s'ils ne l'avaient pas gagné et on ne prélève aucun impôt dessus. On appelle ça l'épargne retraite.
Mais avec tous ces ennemis, pourquoi ça n'a pas capoté alors la Sécu ?
Ah ça, on peut dire qu'en termes d'ennemis, il y en a eu. Même les mutualistes des sociétés de secours mutuels étaient contre au début, de peur que l'État ne leur pique la gestion des caisses. Mais curés et grands patrons étaient trop compromis par leur collaboration systémique avec l'occupant nazi pour plomber complètement le projet.
Toujours des grands mots.
Non mais tu me crois pas ? Savais-tu par exemple qu'en 1938, un complot de type fasciste, ourdi dans l'ombre, a tenté de faire un putsch en France ?
Tu plaisantes ?
Non, pas du tout. Mené par Eugène Deloncle, ce groupe s'appelait le Comité Secret d'Action Révolutionnaire, et il est resté plus connu sous son sobriquet, la Cagoule. Alors ça n'a pas marché, mais ça a bien failli. Et ce ne sont pas les moyens qui manquaient, car il y avait un sévère soutien patronal, les PDG de Le Sieur, Michelin, Saint-Gobain, Ripollin, et surtout Eugène Schuller, patron de L'Oréal, ont mis la main à la poche pour ce coup de force raté.
J'étais pas du tout au courant.
Bah non, les livres d'histoire occultent gracieusement cet épisode. Il faut dire que même les historiens ont du mal à se documenter, les archives ont disparu plus ou moins spontanément. Les grands patrons sont en grande partie vautrés dans la fange. Avant, comme pendant l'occupation, il y a alors ce que les politiques ont appelé une fenêtre d'opportunité sociale, ce qui s'est malheureusement vite refermé. Les manœuvres pour fragiliser le bazar n'ont pas manqué. Pour voir un exemple, le CNR rêvait d'un régime unique, pour tous, c'est logique, un salarié ou non, mais certains travailleurs ayant déjà un type de sécu propre, comme les mineurs, les marins, les fonctionnaires, les agriculteurs, les artisans, les commerçants, les cadres, et personne n'a voulu jouer le jeu. L'argument, c'était « leurs dirigeants n'acceptaient pas de se laisser assimiler à de vulgaires prolétaires ». C'est la phrase que quelqu'un a tirée, Michel Etiévant, l'historien. Et je te passe sous silence tout ce qu'ont tenté les députés de droite de l'Assemblée pour retarder le plan de sécu, sans parler des compagnies d'assurance privées qui firent du lobbying. Le député républicain Charles Viat déclarait même, je cite, « il est indispensable de rétablir d'urgence la pluralité des caisses afin de satisfaire tous les groupements spirituels qui se sont vus spoliés par le nouveau système ».
La chance, ça va devenir politique, ton histoire. Et moi, la politique, j'en fais pas, c'est pas pour moi.
Bah, tu peux faire de politique ? Impossible. La politique, c'est la vie en société. C'est notre mode d'organisation collective, depuis le ramassage des poubelles, jusqu'aux interventions armées, ça te concerne, et même parfois, ça t'implique.
Concerné, impliqué, c'est pareil, non ?
Ah bah, bon, bah, tu peux te sentir concerné par les interventions de notre armée, à l'étranger, mais les populations civiles locales qui prennent les bombes au crâne, elles sont impliquées, tu vois. Petite nuance, même.
J'admets. Mais pour les poubelles, je suis seulement concerné.
Bah, détrompe-toi. Alors, bon, j'ai pas réussi à vérifier, et ça dépend de beaucoup des pays, mais je pense, comme le sociologue et économiste Bernard Friot, que notre espérance de vie serait davantage mise en cause par l'arrêt de tout ramassage des déchets que par la fermeture des hôpitaux. Et Friot de déplorer l'écart de salaire entre médecins et éboueurs. Ça fait réfléchir, hein, t'as vu ? Donc, à moins d'être un moine sur une île déserte, tu vas devoir te faire un avis et bien souvent agir en conséquence, sinon la classe politique le fera pour toi. Comme dit l'adage, si tu ne t'occupes pas de politique, les politiques, eux, s'occuperont de toi.
Quel poète.
C'est toi.
Mais non, c'est Périclès, avec 2500 ans.
Les politicards, c'est tous la même crémerie quand même.
Ah, j'imagine que tu fais référence aux professionnels politicards. À l'organisation politique en France, avec la dualité droite-gauche, blanc-bonnet, bonnet-blanc. C'est vrai que c'est assez compliqué. Je t'explique un peu. Droite et gauche sont des notions héritées de la Révolution française. Plus précisément, de la répartition dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale d'août-septembre 1789. Lors d'un débat sur le poids de l'autorité royale face au pouvoir de l'Assemblée populaire, dans la future constitution, les députés partisans du veto royal, majoritairement ceux de l'aristocratie et du clergé, se regroupèrent à droite du président de l'Assemblée constituante, ses places étant les places d'honneur. Les opposants à ce veto, donc les plus progressistes, si tu veux, se rassemblèrent du côté gauche, sous l'étiquette de patriotes. Il s'agissait majoritairement du tiers-état, composé de Français issus des classes moyennes, de classes assez variées en fait, bourgeois, artisans, paysans. Mais il faut bien comprendre que ce concept ne fait pas vraiment sens hors de France, et ne marque pas la distinction majeure entre les partis politiques aujourd'hui, qui se situent plutôt entre libéralisme culturel et libéralisme économique. En fait, de fait, le clivage, qui était seulement spatial pour les parlementaires, a fait son chemin tortueux jusqu'au début du XXe, où il a commencé à indiquer des positionnements idéologiques et politiques marqués. Bon, je te résume ça en mode pirate. Disons pour faire simple que le positionnement à droite, c'est le respect du pouvoir, le conservatisme, le maintien des grandes structures hiérarchiques, les notions de patrie, de famille au sens restreint, hétérosexuel, une nostalgie du passé et des grands hommes, le droit du sang, l'ordre moral et presque toujours une forte révérence religieuse.
Okay.
On dit que la main droite de l'État, c'est l'armée, la police, la prison.
Okay.
À gauche, en théorie du moins, c'est plutôt l'opposé. Le progressisme en termes de mœurs, le droit des faibles et des plus démunis devant les forts et les riches, la contestation du pouvoir et des structures en place, le droit du sol, la laïcité des institutions, une grande largesse dans les opinions et dans les choix moraux. La main gauche de l'État, c'est l'éducation, le soin, la prise en charge des catégories sociales les plus vulnérables, le care, comme on dit parfois.
Coluche disait qu'on reconnaît quelqu'un de droite à ce qu'il préfère mettre de l'argent dans les prisons que dans les écoles. C'est logique, disait-il, car l'homme politique ne retournera jamais à l'école. Alors qu'en prison, faut voir.
Maintenant, c'est assez compliqué car il y a des gens qui se prétendent de gauche ou socialiste et qui font des choix économiques ne privilégiant pas les plus faibles ou qui ont des programmes conservateurs.
Conservateurs. Bon, écoute,
Il y a un héros de Jack London, Martin Eden, qui, chaque fois qu'il entend un nouveau mot, va chercher la définition. Il se rend compte progressivement que les gens qu'il prenait pour savants, auparavant, ne faisaient que se gorger de mots dont ils ne connaissaient même pas le sens. Alors moi, je fais comme lui. Je m'assure qu'on ne me bourre pas le mou. Conservateur, ça veut dire quoi ?
T'as raison de me reprendre, Bon, comme le mot libéral dont on a déjà parlé, le mot conservateur véhicule pour chacun tout un tas de représentations. On oppose généralement le conservatisme, plutôt péjoratif, au progressisme amélioratif.
Amélioratif, dis donc, tu parles comme Molière, redescends un peu, s'il te plaît.
Ah, ouais, bon, ben, positif, quoi. Progressiste, ça fait cool, tu vois, ça fait chambé, ça fait michto, ça fait chouka.
Ça va.
Bat, tu vois, c'est ton époque, ça va.
J'ai compris, c'est moche. Tu me renvoies à mon époque. Tu sais que si tu dis bat ou in au XXe siècle,
c'est bon, ça.
On va jeter des cailloux. On croit que tu es hibernatus et que tu te réveilles après 70 ans dans la glace.
Voilà, pour qu'on s'entende ici, quand je parle de progressisme, je fais référence au courant de pensée qui considère qu'une transformation des structures sociales et politiques doit être accomplie pour une plus grande justice sociale et pour l'amélioration des conditions de vie humaine. A l'inverse, quand je parle de conservatisme, je pense au courant de pensée qui croit en l'existence d'un ordre naturel des choses, c'est-à-dire hiérarchie, famille, religion, etc., qu'il faut préserver au détriment de toutes les variations prises comme autant de déviances. Tu me diras, est-ce que vouloir conserver des avancées sociales, c'est être conservateur ? Non, bien sûr, c'est progressiste.
C'est vrai que les progressistes mangent toujours des aliments sans conservateur.
Très bon. Historiquement, c'est vrai que le progressisme est plutôt associé aux valeurs de gauche et le conservatisme aux valeurs de droite. Mais comme je te disais, les frontières ne sont pas très nettes. On a une gauche française qui mène parfois des politiques conservatrices au sens où elle préserve l'ordre établi, notamment sur le plan économique. Tu les connais. Ils étaient au pouvoir depuis 2012. Des pseudo-socialistes ou des socialistes dits jaunes.
Et pourquoi jaune ?
Ah, le terme jaune, intéressant. Il est habituellement utilisé pour dire traître ou trompeur, si tu veux. Pour la petite histoire, à l'origine, dans les années 1890, une grosse controverse entre deux journaux, le New York World de Joseph Pulitzer et le New York Journal de William Randolph Hearst, des noms qu'on connaît encore, hein, fut l'occasion d'un échange de nombreux noms d'oiseaux, dont celui de journalisme jaune, qualifiant une presse de bas niveau, faisant ses choux gras, des dénonciations calomnieuses, des faits divers, le jaune étant la couleur du papier bon marché.
Okay.
En France, un syndicat jaune fut fondé le 8 novembre 1899 à Montceau-les-Mines, par un petit groupe de mineurs refusant de faire grève. Les grévistes s'en prirent alors le lieu de réunion, en leur jetant des pierres, brisant des vitres. Les anti-grèves décidèrent de remplacer les vitres brisées par du papier jaune trouvé à la hâte. Alors à partir de là, les ouvriers anti-grèves ont été appelés jaunes, ou parfois renards. Bourdieu parlera, lui aussi bien plus tard, de sociologue jaune, inféodé à des intérêts autres que le simple savoir.
Donc, pour toi, le gouvernement depuis 2012 est jaune ?
Oui, bien plus que le précédent. On savait que Nicolas Sarkozy était très proche du monde de la finance et de l'industrie. Enfin, il n'a pas menti sur la marchandise. François Hollande, lui, a déclaré que son premier ennemi, c'était la finance. Et rien. Il n'aime que Sarkozy. Que des personnages politiques louvoient avec le vent pour leurs propres intérêts, c'est une chose. Il leur arrive de défendre un modèle de société plutôt qu'un autre. Donc oui, selon tes opinions, tes choix de santé ne seront pas les mêmes. Moi, par exemple, si on me situait, on me mettrait très à gauche. Car je ne vois de solution que dans la plus grande ouverture d'esprit, des libertés accrues, et dans la prise en charge maximale des plus vulnérables. Je pense qu'on jauge une société à la façon dont elle traite ses faibles et ses opprimés. Attention, c'est pas intuitif, hein, j'ai pas toujours défendu ça.
J'en viens à notre histoire. Tu es content que le projet du CNR ait vu le jour ?
Parbleu ! Mon bon ami, mais quand est créé en 46 le régime général de la Sécu, il n'a finalement rien de général. Il est limité aux salariés de l'industrie et du commerce. Il n'a pas réussi toutes ses ambitions, comme gérer l'ensemble des risques dans une seule caisse. Mais ceci dit, c'est déjà pas mal. Il n'y a que dans les départements d'outre-mer, érigés par la loi du 19 mars 46, que se met en place un système proche de celui rêvé par le CNR.
Allez, c'est d'histoire ancienne tout ça. Et maintenant, la Sécu, c'est quoi ? Si je t'écoute, c'est un refuge dans la tempête. Un troquet dans le désert de Gobi. Peut-être. Mais explique-moi concrètement et sois patient.
Je te promets, je serai patient. Petite correction, tout à l'heure j'ai dit Stéphane Aurel, qui est une journaliste du Monde, et je voulais dire Stéphane Hessel, décédé en 2013. Fort heureusement, Stéphane Aurel n'est pas décédé, et il est toujours là. Et à la bonne.